Métaphysique, livre des états par le père Philippe à Saint-Joseph, le 25 juin 85.
Alors on a lu la dernière fois le chapitre 17, c'est le dernier cours. Je ne vais pas revenir sur les chapitres précédents.
J'aime mieux qu'on s'arrête un peu sur ce chapitre 17. Alors je vous demande d'abord si vous avez des questions.
Il parle de la.
Il est donc un test que ce qu'on cherche, c'est la cause. Et là, au fond, tout est là. Il est manifeste que ce qu'on cherche, c'est la cause.
Est-ce qu'il veut dire ici, nous faire comprendre, cet aspect, que la cause est comme un clé?
Non. La cause rend raison de la production. C'est une maison. C'est une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du bois. Ça a une forme particulière. Ça ne pousse pas comme ça. C'est quand même de la caroline. Ça ne pousse pas comme ça, c'est ça. Les macaronis, ça pousse en Italie, vous savez. C'est en Italie que ça pousse. C'est ça qu'il y a que là où on peut les faire cuire, vraiment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, vous voyez que c'est un problème. Qu'est-ce qu'il y a de drôle de dire que les macaronis, ça pousse en Italie? C'est le prédicat qui ne va pas. Vous êtes en face d'une œuvre d'art, parce que tout macaroni, les espèces de macaroni, pour entendre un italien parler des différentes manières de faire spaghetti, c'est un art. Bon, alors c'est une œuvre d'art. Si c'est une œuvre d'art, c'est donc quelle est la cause? Cherchez la cause. Quelle est la cause des macaronis? C'est quoi? C'est le génie d'un homme qui a cuisiné. Il a essayé de faire ça, réaliser ça, à partir d'une matière, d'une pâte particulière. Il a réalisé ça comme pour la table. Et donc, l'idée, c'est la cause. Recherche, c'est la recherche d'une cause. C'est très intéressant ça, parce que au fond, c'est toujours ça qui va revenir quand on va essayer de comprendre la différence entre la science et le point de vue philosophique. Est-ce qu'un savant serait d'accord que toute recherche, c'est la recherche d'une cause? Au fond, il cherche toujours une explication. Alors, il y aura les degrés différents d'explication. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand Aristote dit que la cause, c'est la cuidité. Parce que par la cuidité, si on restait uniquement au point de vue cuiditatif, on ne ferait pas la différence entre le philosophe et le savant. Chercher une loi, c'est chercher la cuidité. La loi est une cuidité. Ça qui est très... Et c'est ça qui me semble très intéressant, parce que ça montre très bien que toute recherche, moi je crois que c'est ça qu'il faut dire, toute recherche recherche une explication, donc recherche une cause. Une cause, ça peut être très différent, d'une certaine manière une loi est une cause, c'est d'une certaine manière. Donc ça recherche une cuidité. Ça recherche quelque chose qui relie deux aspects qui sont liés. On a relié la table, le bois, on a relié le bois à cette forme. On a relié la pâte à cette forme particulière. On a fait une macaronie. On a fait une table. Donc, c'est une cuidité, toujours une cuidité, toujours un logos. On recherche toujours un logos, voilà ce qu'on cherche. En face d'une chose composée, pour qu'il recherche. Alors, vous voyez l'astuce d'Aristote, pour qu'il recherche, la condition sine qua non pour qu'il recherche. C'est la première chose qu'il cherche, qu'il regarde. Pour qu'il recherche, il faut une composition. Quand vous êtes en face de quelque chose de simple, il n'y a pas de recherche. Vous saisissez ou vous ne saisissez pas. Dès que vous êtes en face de quelque chose de simple, vous saisissez ou vous ne saisissez pas. Tandis que dès que vous, quand il y a une recherche, c'est qu'il y a une chose, il y a une composition. Et vous cherchez comment unir les deux termes de la composition. La composition, ça s'exprime par un sujet, un attribut, je veux bien. Bon, il y a un sujet, un attribut, c'est une composition, ça c'est au niveau des noms. Puis quel est le lien qui fait les deux? Qu'est-ce qui a collé les deux ensemble? Qu'est-ce qui a fait le lien entre les deux? Eh bien, le lien entre les deux, c'est toujours un logos. Ce logos est une cause putative, une explication, qui unit les deux. Deux points, deux éléments. Alors, prenez B. Les deux éléments, B et A. C'est un chose, une macaroni ou pas, c'est normal. Si Aristote avait été italien, il aurait mis macaroni, plutôt les Grecs, il aurait mis pas. Il y a une différence entre le grec et l'italien.
Oui, c'est.
Il met pas, lui. Il unit ces deux. Et le logos consiste à chercher le lien. Comment se fait-il que ces deux sont unis? Ces deux sont unis. B n'explique pas comment il est uni à A. Puisque B peut se unir à n'importe quoi d'autre. Il peut y avoir B plutôt que B. Ça existe, B. Vous dites bon aussi. Donc comment se fait-il que B est uni à A? Ça ne s'explique pas par B, ça ne s'explique pas par A. Il faut donc un troisième qui explique l'unité, qui explique l'union. Et ce troisième est cause de l'union, donc cause du composé. C'est le logos. Et je crois que ça, c'est le raisonnement scientifique. Toute pensée scientifique est comme ça, qu'elle soit la science moderne, que ce soit la science d'Aristote, c'est la même chose. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça donne, je crois que l'analyse de ce que dit Aristote là, donnerait le point de départ de la possibilité de voir le lien entre une pensée scientifique moderne et l'épistémé d'Aristote. C'est ça qui m'intéresse. C'est très rare qu'Aristote dise des choses comme ça, mais c'est intéressant, c'est très intéressant, et c'est à l'égard de la substance. C'est d'autant plus intéressant, c'est à l'égard de la substance. Alors, ensuite, on va distinguer dans la cuidité, et Aristote lui-même le fait, dans la recherche du logos, mais il y a des degrés différents. Il y a les 10 prédicaments. Donc, vous avez 10 étages. Les 10 prédicaments, c'est toujours une recherche de cuidité. Et toute recherche de cuidité va me permettre d'expliquer de temps en temps ce que représente ce lien. Alors, quand il s'agit d'un lien dans l'ordre de l'être, pas dans l'ordre artificiel, ce lien... Et c'est la substance. Et quand il s'agit d'un autre lien pour la table, pour le macaroni, c'est l'idéa, qui est la substance séparée de la matière et qui explique le radar. Alors, Aristote commence par quelque chose de tout à fait général. Toute recherche implique la recherche d'une cause. Alors, prenez cause, logos. Le logos grec. Cette cause, c'est la cuidité. C'est le logos, c'est la cuidité. Ensuite, vous verrez la différence entre la recherche de la loi et la recherche de la cause. Mais la loi est une cuidité. Et la cause est une cuidité. Tous les deux sont cuidités. Oui. Alors, c'est intéressant parce qu'Aristote se sert du totienaïman pour montrer comment Platon a confondu forme et substance. Nous nous servons de la cuidité pour montrer le lien commun qui existe entre la loi et la cause. Ce qui a servi à séparer peut servir à unir. ça qui me semble intéressant ici, c'est ça qui me semble très intéressant dans ce petit passage. C'est tout simplement la réflexion très simple, au plan critique. Toujours, quand il y a recherche à partir d'un composé. Et il y a la recherche de voir comment des choses sont liées entre elles, unies entre elles. Les éléments n'expliquent pas l'union. Il faut donc quelque chose qui explique l'union. Et ce qui explique l'union n'est pas les éléments. C'est quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est le logos. C'est la qualité. C'est la cause. Vous arrivez à piger ça ?
C'est uniquement au niveau
de la cause. Donc une composition. Moi, je fais la cause pour vous. Essayez de donner l'explication pour vous.
Parce que j'ai plaint. Souvent, quand on dit cause, c'est l'être. Selon la femme, on a toujours une conception des causes efficientes. On se demande tout bien.
Vous choisissez la cause, une chose. Alors la cause n'est pas une chose. Les éléments sont des choses. Les éléments. B et A. Et l'union de bas, ça, n'est pas une chose.
La chose, c'est un mot qui vient du latin causa.
C'est là où on voit qu'au point de vue, puisque le point de vue uniquement de voir l'étymologie n'aboutit pas. Causa.
La causa latine a donné la chose.
Oui, c'est la chose. C'est justement la
res. Et la res latine a donné le.
Parce que c'est l'aspect matériel, la res.
Ça donnait
rien. Oui, ça donnait substance. Quand un homme apprend res, il dit c'est l'essence dans le déveritaté.
C'est notre rien.
Ce qui montre comment nos mots, hein, nos mots, ben, ça traduit toujours quelque chose, parce que le mot chose, c'est vrai, c'est le lien entre deux. Donc c'est la méta-chose, si vous voulez. C'est la méta-chose. C'est ce qui explique que la chose existe. Donc c'est la méta-chose. Alors mettez ça en français, méta-chose, c'est complètement dingue. Mais c'est vrai, c'est l'explication. Ça rentre. C'est bien, il faut comprendre. Il est donc manifeste que ce qu'on cherche, c'est la cause, du point de vue rationnel, logikos, c'est l'acuité. Ça, c'est très intéressant. Du point de vue rationnel, c'est l'acuité. Et le passage de la cause aitia à l'acuité, c'est le point de vue rationnel, logikos. C'est du point de vue, donc, traduisons, du point de vue intelligibilité. Du point de vue intelligibilité, l'acuité fait ça, fait le lien. Qu'est-ce qui fait le lien entre la cause métaphysique et la loi ? C'est la qualité. Et ça, c'est très intéressant. Parce que c'est par là que je saisis justement qu'il y a une possibilité de discussion entre savants et philosophes, c'est la qualité. La qualité a été inventée pour montrer la différence existante entre l'idéalisme et le réalisme, et la qualité sert pour montrer dans le réalisme les niveaux différents d'intelligibilité de la réalité. Je crois que ça, c'est très, très important. Donc, du point de vue rationnel, c'est l'acuité. Dans certains cas, c'est la cause finale. On dit c'est l'acuité. Dans certains cas, c'est la cause finale. Alors, la cause finale, oui, c'est va expliquer dans les choses de l'œuvre, des réalités qui sont des œuvres ou l'éthique. Hein. Donc, tout ce qui relève de l'activité humaine. C'est la cause finale, ainsi probablement pour la maison, pour le lit. Dans d'autres cas, c'est le moteur premier, car lui aussi est cause. Et tandis que cette cause n'est cherchée qu'au sujet du fait d'être engendré ou d'être corrompu, l'autre est recherché au sujet du fait d'être. Alors on passe du devenir à l'être. Aristote n'est pas encore en phase des sciences. Alors ce qui serait intéressant pour nous,
si on reprenait ça dans notre monde d'aujourd'hui, on prendrait les trois niveaux. Aristote prend uniquement le niveau du devenir et le niveau de l'être. Nous prendrions avant le niveau de la connaissance scientifique. Ni le devenir, ni l'être. La connaissance que nous pouvons avoir des réalités complexes dans leur complexité qui aboutit à la loi. Ici, ça aboutit à la nature. Ici, ça aboutit à la substance. La loi n'est ni la nature ni la substance. La nature, principe, cause du devenir, la substance, principe de l'être, et la loi, principe. La loi est principe, hein, faut pas l'oublier. Il y a un principe tout à fait particulier. Ce n'est pas un principe au sens absolu. Mais c'est quand même quelque chose de premier. C'est premier dans l'ordre du logikos. Dans l'ordre du logikos, la loi est quelque chose de premier. Alors, elle est principe d'une relation. La loi exprime une relation. Antécédent et conséquent. Et on relie les deux. Alors vous avez les trois niveaux d'intelligibilité. Et ces trois niveaux d'intelligibilité, c'est ça qui m'intéresse ici, ce que dit Aristote, c'est le to-di-en-a. Il faut le remettre à la source. C'est la quidité. Et au fond, ce qui est très intéressant, parce que ça nous montre que l'intelligence recherche toujours la quidité. Parce que la quidité, c'est ce qui spécifie en premier lieu l'intelligence. Oui.
Alors que la quidité est dans la réalité, est-ce qu'on peut dire que la loi est dans la réalité ?
Elle a un fondement. Elle a un fondement. C'est dans la réalité. La substance est plus dans l'être que la nature, et la substance et la nature sont plus dans l'être que la loi. La loi exprime quelque chose, quelque chose. Il y a un fondement dans la réalité. Un fondement. Alors, il faudra préciser exactement quel devait être. Et alors là, je crois qu'on aurait les différents hiérarchiser les sciences. On pourrait hiérarchiser les sciences en fonction du fondement par rapport à la réalité. Mais c'est toujours le tout qui est né là. Mais c'est ça qui me semble intéressant, c'est d'avoir la clé qui permet de hiérarchiser les sciences et qui permet de comprendre la comparaison entre les sciences et la philosophie. Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est le tout qui est né là. L'intelligibilité, oui.
Parce que ces trois niveaux d'intelligibilité sont trois explicitations différentes.
Oui, exactement. Tout à fait. De la réalité. Mais vous comprenez que la science saisit la relation. Quand je mets la relation, c'est, nous dirions, en termes philosophiques, le conditionnement. Le conditionnement du monde physique, le conditionnement du monde vivant, le conditionnement du monde humain, psychologique. C'est le conditionnement. Alors, le conditionnement a une intelligibilité moindre que la nature, que la substance. Et parce que l'intelligibilité est moindre, l'intelligence va lui apporter quelque chose de plus. L'intelligence complète toujours cette chose extraordinaire, parce que je vendrais les mathématiques, les télémathématiques, parce qu'il faut toujours les mathématiques un petit peu en dehors. Les mathématiques ont toujours quelque chose d'un petit peu en dehors. Ça transcende, c'est autre chose. Bon, les mathématiques regardent le divisible. En général, on parle de le divisible. Bon, la relation dans le divisible. Comme le divisible demande d'être actué, il est actué par quoi ? Par les mathématiques, par l'intelligence. Alors, vous voyez là, le dépassement par rapport au fondement réel. Le fondement réel est plus lointain. Parce que l'actuation ne se fait plus par la réalité existante, mais par l'intelligence. C'est l'intelligence qui actue. Dans les sciences expérimentales, on ne pourrait pas dire que c'est l'intelligence qui actue. Dans les sciences expérimentales. Puisque c'est la réalité qui va voir si cette théorie ou cette loi est juste. Mais le lien que fait entre deux aspects, c'est l'intelligence qui le fait. L'intelligence construit des lois. Et c'est l'intelligence qui construit ses lois, donc c'est qui actue des relations et qui voit si ce qu'elle a fait est conforme ou pas conforme à la réalité. Et la réalité, à ce moment-là, rejette la loi si ce n'est pas conforme. Si c'est conforme, elle est. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Parce qu'elle ne joue que le rôle d'un fondement. Elle ne spécifie pas. C'est très curieux, mais je crois que c'est la nudité qui va permettre de comprendre ça. C'est ça que ce passage d'Arisat me semble si important. Ça semble un peu une clé. Mais il est très bon que c'est à l'égard de la substance. C'est sûrement pas au hasard. Voyez. Pour reprendre là, au point de vue critique, ce que représente l'exigence même de la vie de l'intelligence, qui cherche une source, qui cherche un premier. On continue de relire ça. Il y a d'autres questions ?
On ne pourrait pas aussi chercher le premier dans l'ordre aussi du vivant, quoi, l'intelligibilité du vivant avec l'âme.
Oui, sûrement. Mais il ne le fait pas ici, vous voyez. Ah, il le fait un tout petit peu. Il le fait par rapport à premier. Les exemples du vivant seraient intéressants, vous allez voir les exemples qu'il prend. Comment les exemples qu'il prend, ben, mais vous pouvez, parce que c'est pour l'exemple de l'âme, c'est entre les deux. Hein. L'âme est entre la nature et la substance. Toujours. Non, c'est se mouvoir. C'est le se dans le devenir. C'est un devenir qui implique une immanence. Là, vous avez trop de temps. Merci.
Ce qui dit que dans, par exemple, dans les relations, la cupidité est moindre.
Oui, c'est évident. La cupidité est beaucoup moins dans la relation que dans la nature.
Est-ce que c'est, ça équivaut à dire il y a l'évidence est moindre.
L'évidence est moindre.
Oui. Donc je voudrais identifier.
L'évidence est plus proche de nous parce que c'est dans le conditionnement. C'est toujours beaucoup plus facile. Mais elle est moins enracinée. Et parce qu'elle est moins enracinée, l'aspect subjectif peut l'emporter. Et c'est pour ça que les sciences ont besoin ordinairement d'un recours aux mathématiques. En fonction même qu'elles sont plus ou moins loin du point de vue du fondement. Si le fondement est très éloigné, qu'est-ce qui va permettre la formalisation ? Ça va être formalisation mathématique. Ça, c'est dans la biologie, c'est très net. Je crois que c'est ça qu'il faudrait réfléchir là-dessus, c'est ça qu'il faudrait essayer de comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes toujours, vous voyez, dans la recherche. Il y a quelque chose de commun. Quelque chose de commun. Et c'est important de saisir le quelque chose de commun aujourd'hui entre les savants et les philosophes. Voir qu'il y a quelque chose de commun. Il y a une recherche quiditative. Oui, ça nous donne la cupidité, ça c'est sûr. C'est du reste pour ça qu'Aristote a vu la petite formule qu'il prend. Hein. Ça répond directement à ce que vous dites. Il est donc manifeste que ce qu'on cherche, c'est la cause. Hein. Du point de vue rationnel, logicose, c'est la cupidité. Hein. La réduction de la cause par le logicose, c'est la cupidité. Hein. La mémoire. Qu'est-ce qui reste de la cause dans la cupidité ? Logicose. C'est très difficile de comprendre le logicose, mais vous comprenez très bien le logicose quand vous voyez la différence qui existe entre la cause et la cupidité.
La cupidité est à l'intelligence que la cause est au réel. La cupidité est à la connaissance ce que la cause est au réel.
Oui, si vous voulez dire ça, en ce sens que la cupidité est principe, détermine l'intelligence, et que la cause détermine le réel. Et vous pouvez le préciser autrement, parce que ça ne vous avancerait pas beaucoup. Il faut plutôt essayer de comprendre le rapport entre le réel et l'intelligible. Et que l'intelligible est propriété de la réalité, et que l'intelligible est thématisé, ce que nous avions dit, par le cupidité. La cupidité formalise l'intelligibilité pour qu'on la regarde en elle-même. Parce que si je ne regarde pas l'intelligibilité en elle-même, la science moderne ne pourrait pas naître. Il faut pouvoir le logikos, il faut le logikos pour qu'il puisse y avoir la science moderne.
crois que ça s'est fait propre. Et les mathématiques n'ont pu naître comme ça. Grâce aux prêtres qui avaient des loisirs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi alors là une raison pratique.
C'est le prêtre en tant qu'architecte.
Oui, architecte. Et derrière Dieu qui donne les dimensions du temple. Donc il faut nécessairement que l'architecture soit théologique et sacrée. Mais elles naissent aussi par le nombre.
Hein?
Est-ce qu'il n'y a pas deux sources?
C'est extrait de la géométrie, le nombre provient d'abord de la géométrie.
Est-ce que la géométrie est première par rapport à l'arithmétique?
Ah oui.
Sûrement.
Ah oui.
Historiquement, historiquement ou génétiquement.
C'est lié par les figures géométriques, par les polygones.
La roue.
Et ben c'est la division de la roue.
La roue est née en première lieu, je crois. Vous ne croyez pas? Je crois que c'est la roue qui est première. Du moins, ce que disait Des Fontaines, c'était géographie humaine, c'est dans la géographie humaine. Ça. Ils disaient que c'était la roue qui était née en première, et alors le point de vue sacré de la roue. Et en même temps, le roue, un point de vue pratique de la roue. Et qu'à partir de la roue étaient nés les différents aspects. Donc, à ce point de vue-là, c'est vrai, la géométrie. Et la roue, le cercle, étant l'image de l'éternité. Donc, le reflet de l'éternité dans le temps, c'est le point de vue géométrique de la roue. Et à partir de là est née l'arithmétique. Et que l'arithmétique, alors philosophiquement parlant, je suis entièrement d'accord, puisque le point de vue de la géométrie est lié au continu, et que l'arithmétique est liée au discontinu. Et le discontinu naît du continu. Donc, vous voyez, la confirmation au point de vue philosophique. C'est que l'arithmétique est plus abstraite que la géométrie. La géométrie est plus proche. Le fondement, ce que je disais tout à l'heure, le fondement réel est plus proche, plus immédiat. Et si le fondement réel est plus immédiat, donc on a la bonne. Oui.
Quelle est la différence entre cause et principe?
C'est que la cause et principe. Le principe est ce qui est premier. Cela au-delà de quoi vous ne pouvez pas aller. C'est dans ce sens-là que la loi n'est pas un principe absolu parce que vous pouvez toujours aller au-delà de la loi. La loi appelle une autre loi. Alors que le principe n'appelle pas un autre principe. Il y a dans le principe quelque chose d'absolu. Cela au-delà de quoi je ne peux pas aller. Le principe est au-delà de la distinction. Intelligibilité réelle, existante. Il est au-delà. Autrement dit, il y a des principes dans l'ordre de l'intelligibilité et des principes dans l'ordre du réel, existant. Tandis que la cause est toujours dans l'ordre existentiel, de devenir ou d'être. C'est le premier dans l'ordre de devenir, c'est le premier dans l'ordre d'être. Tandis que le point de vue principe peut aller au-delà. C'est pour ça que je ne dis pas que la cause, la loi, et cause, je dis que la loi est principe. Principe relatif. Principe momentané. Pour le moment, cette loi me sert de principe. Pour le moment. Jusque je retrouve une loi plus générale, une loi qui permettra de dire davantage. Oui. C'est ça que la loi appelle une autre loi, mais elle joue le rôle quand même de mesure et de principe, d'exemplarité. Pour le moment.
Sur les maths, mais chez les pythagoriciens, il y a la géométrie à une place bien moindre. Vous voyez, Platon, c'est pas du tout la géométrie. Platon, c'est les nombres.
Oui, mais c'est parce que c'est déjà très avancé.
Mais est-ce que précisément, c'est la dignité des mathématiques n'est pas du côté du nombre?
Ah non, des deux côtés. La dignité. Oui, c'est ce que je dis. Quand on dit que le nombre est plus abstrait, donc il est plus formel, il est plus digne. C'est pas la matière qui est digne. C'est la formalisation.
Le côté divin des mathématiques, il est du côté des nombres, mais pas du côté de la géométrie.
Et le triangle. Pythagoricien.
C'est le triangle. La tétractice, c'est divin.
La tétractice, c'est divin. Alors, il rejoint dans la tétractice le point de vue du nombre.
Découvert petite chose pour vous la détracter, c'est que les 153 poissons du 22e chapitre de Saint Jean, ça correspond au triangle de 17, le côté 17.
17, 17.
Oui, 17.
Donc c'est la tétractique, il a pêché ça. C'est le chiffre de quoi? C'est le chiffre de...
Je pense que c'est 10 qui
fait. Oui, ça c'est... Oui. Ah oui, 10 c'est le décalogue. C'est la loi. C'est la loi. Et 7 c'est le chiffre parfait dans le sens... Oui, oui. Et puis le divin et l'humain. 7 c'est toujours le lien du divin et l'humain, parce que c'est 4 et 3.